France Culture.
Bonjour Hélène Darroz.
Bonjour.
Hier, nous avons parlé de vos restaurants, de comment vous êtes monté à Paris, vous avez développé votre restaurant Marsan et vous avez ouvert beaucoup d'autres restaurants. Vous avez dit que vous n'étiez pas forcément destinée à devenir cuisinière. C'était votre frère qui aurait pu reprendre déjà le restaurant familial et que les femmes autrefois n'étaient pas forcément destinées à devenir cuisinières. Mais en fait, le fait d'être une femme, ça vous a permis aussi d'être repérée plus facilement. Et ça a été finalement une chance et presque un avantage.
Ah oui, moi je dis toujours que j'ai eu... enfin moi c'était ça a fait ma différence et moi ça m'a beaucoup aidée au contraire parce que c'est vrai que on m'a regardée tout de suite, on m'a repérée tout de suite parce que j'étais une femme et on m'a mis en avant parce que voilà, il y avait pas beaucoup de femmes quand moi je me suis lancée et j'étais presque la seule et tous les regards se sont mis sur moi et voilà, il fallait en être à la hauteur par contre hein, parce que je pense que j'ai toujours dit si j'avais fait une erreur ou si enfin voilà, je pense que tout de suite elle serait ressortie. Donc mais voilà, ça n'empêche que ça m'a énormément aidée et voilà, il y avait beaucoup de bienveillance, mais...
De la part de la presse
De la part de tout le monde, de la part de la presse, de la part des clients, de la part de mes confrères aussi. Hein, mais bon, après, il fallait en être à la hauteur. Ça, c'est clair, j'en ai toujours été consciente.
Monsieur Ducasse, Alain Ducasse, c'est qui vous avez travaillé au Louis XV à Monaco. Je crois que vous avez même dit, il y a vraiment une place à prendre pour une femme, pour une fille comme vous.
Au tout début, oui, c'est ce qu'il m'avait dit, oui. Ça, c'est quelque chose dont... Je me souviendrai toujours, donc ça m'a marqué, oui. Ah. C'est vrai qu'il y avait vraiment pas beaucoup de femmes dont on parlait et puis qui avaient deux étoiles.
Ouais. Vous disiez aussi hier que vous n'avez pas vraiment souffert de machisme en cuisine quand vous avez débuté, parce que finalement vous n'étiez pas chef au départ, dans ces ambiances qui étaient quand même très masculines et qui le sont, je crois, encore beaucoup dans les brigades.
Ouais.
Vous n'avez pas, peut-être plutôt dans la façon de faire des affaires ou avec des partenaires financiers, je crois que
vous êtes arrivé quand même parfois des
difficultés.
Une fois, voilà. Moi, dans le milieu du travail, dans le quotidien du travail, je n'ai vraiment pas eu à me plaindre. Au contraire, il y a eu beaucoup de bienveillance et voilà. Mais parce qu'aussi, on me dit souvent, quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui veulent se lancer là-dedans? Moi, je dis, soyez vous-même, n'essayez pas d'être un mec, quoi. J'étais là avec mes différences, avec mes qualités, mais aussi avec mes faiblesses. Et je les ai reconnus de suite et voilà, et du coup il y a vraiment eu cette bienveillance. Mais c'est vrai qu'une fois comme vous le disiez, je suis aussi chef d'entreprise et j'avais affaire c'était vraiment très personnel hein, ça n'a mais c'est vrai que c'est la seule fois je pense dans ma carrière où je me suis sentie rabaissée en tant que femme. C'est un banquier qui a voulu rouler des épaules et montrer sa supériorité et voilà, et moi j'étais jeune à l'époque hein, avec beaucoup d'emprunts sur le dos, et c'est vrai que j'avais mal vécu le fait qu'on essaye de mettre en avant sa masculinité et rabaisser et profiter de ma féminité, on va dire. Mmh. Voilà, c'est ça.
Vous donnez aux jeunes femmes, jeunes chefs qui débutent, vous leur dites restez vous-même, c'est ce que vous avez appliqué à vous-même. Mmh. Vous disiez je l'ai été avec mes forces et mes faiblesses, mais finalement quelles étaient vos forces et vos faiblesses personnelles ou même en tant que femme?
C'est pas moi je pense qu'en tous les cas c'est ce que disait les choses ont changé en 25 ans, mais c'est vrai que ce que disaient les jeunes qui arrivaient dans ma cuisine, ils trouvaient une forme de générosité et de bienveillance dans le management qu'ils n'avaient pas trouver ailleurs, ne serait-ce que dans le fait que moi je demandais à ce qu'on ne m'appelle pas chef mais qu'on m'appelle par mon prénom. Pour eux c'était quelque chose qui était très très difficile quoi hein. Et puis voilà, et puis il y avait beaucoup de communication dès le départ avec tout le monde, que ce soit le plongeur, le sous-chef de cuisine, le directeur de salle ou celui qui portait les plateaux. Donc tout ça c'était des choses qui étaient peut-être un peu nouvelles et qui le sont plus du tout aujourd'hui. Et puis après, là où moi je pense il y avait une vraie différence, et c'est ce que ont toujours dit mes proches collaborateurs, c'était dans ma manière de cuisiner. Je cuisinais avec beaucoup de dons de moi-même, beaucoup de générosité par rapport à ça, et j'étais pas du tout dans la technique et dans la démonstration de quelque chose, ça ne m'intéressait pas, et c'est ce que je leur expliquais. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de donner de l'émotion à travers du goût, à travers l'origine du plat, pourquoi il était là, et qu'est-ce qu'il représentait pour moi, et des choses comme ça, voilà.
Et ça, concrètement, vous le dites, hein, c'est une façon peut-être plus féminine de cuisiner. Je pense que les hommes sont plus dans la technique et dans la démonstration.
Alors après,
vous pouvez donner des exemples par rapport justement à des plats ou à des techniques.
Je sais pas, mais en tous les cas, je dis ça, mais en même temps, je rajoute tout de suite que il y a des exceptions parce qu'il y a des femmes qui sont. Moi, je connais. J'ai aussi des. Et alors, surtout, ce que je dis, c'est que c'est pas un défaut de montrer sa technique, etc. C'est une autre façon de cuisiner. Je veux dire, c'est pas. Moi, je le respecte aussi. Hein. Mais c'est pas ma manière à moi de faire. C'est pas par la force des choses. Mais moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Et donc, je dis qu'il y a des exceptions. Il y a des hommes qui sont très très féminin, et d'ailleurs c'est des gens avec qui j'ai eu beaucoup d'atomes crochus. Je parle d'un Michel Guérard, je parle d'un Michel Bras, d'un Pierre Gagnère. Ce sont des gens qui me sont très proches, avec qui j'adore passer du temps, parce qu'ils ont une approche justement très 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 féminine, quoi, très 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 dans la sensibilité, très dans le.
Concrètement, ça va s'incarner comment dans le plat?
Dans le plat, je sais pas. J'ai par exemple un de mes plats de qui s'appelle le retour d'Hanoï. C'est un plat que j'ai créé,
avez réinterprété.
Oui, c'est une réinterprétation, si on veut, oui, du feu vietnamien, de la soupe vietnamienne qu'on mange presque à toute heure de la journée, et que moi, quand je suis allée chercher ma petite fille Charlotte, je mangeais tous les soirs dans un petit boui-boui en face de mon hôtel. C'était les plus beaux jours de ma vie parce que j'étais là avec ma petite fille, je devenais maman.
On en parlera de ça justement.
Ouais. Ouais, c'était juste les plus beaux jours de ma vie, et ce feu avait pour moi, ce feu a pour moi une importance. Enfin voilà, c'est une Madeleine de Proust incroyable, mais c'est au-delà d'une Madeleine de Proust. Il représente tellement de choses que voilà. Et quand je suis rentrée, j'ai eu, je sais pas, quelques semaines après, assez rapidement même, parce que je me souviens très bien du moment où c'est arrivé, que je me suis dit waouh, il faut que j'y aille là-dedans. Je me souviens où j'étais, et je me suis mis à retravailler autour du feu, alors avec ma liberté, avec
qu'est-ce que vous avez apporté pour twister ce feu?
Je le fais pas à partir de c'est fait normalement ou de volaille ou de bœuf. Moi, je le fais à partir d'un crustacé. Au début, c'était peut-être pas la meilleure idée d'ailleurs, mais au début, j'avais même incorporé des copeaux de foie gras. Il y a un de mes plats signature qui est un homard qui est poché dans un beurre de tandoori, servi avec une mousseline de carottes aux agrumes et un jus plein d'acidité et de parfum. Ça, c'était un retour d'un voyage d'Inde, quoi. C'est à ce moment-là qu'il en dit beaucoup sur ce voyage qui a été assez initiatique pour moi. Voilà, c'est des choses comme ça. L'escaoutoun, qui est un plat qu'on trouvait autrefois qui était le pain du pauvre dans les familles landaises, à base de farine de maïs, et voilà. Bon, moi, je l'ai complètement réinterprété. J'ai vu mon arrière-grand-mère le manger parce qu'elle, elle aimait ça, hein. Pas qu'elle était pauvre, mais elle n'était pas riche non plus. Mais donc, je l'ai vu manger et se régaler avec cet escaoutoun, qui était vraiment, qui à la base, c'est un truc qui est, on appelle ça mastoc chez nous, c'est-à-dire c'est dur, c'est sec, c'est pas bon, etc. Mais mon arrière-grand-mère, qui avait des goûts très spéciaux en cuisine, et qui n'était pas du tout une épicurienne, c'était incroyable, mais que j'adorais. J'ai eu une relation avec cette femme incroyable. Et donc, cet escaoutoun, à un moment donné, j'ai voulu le réinterpréter, et c'est devenu quelque chose qui d'ailleurs a été copié par des gens qui n'avaient même pas d'origine landaise. C'était idiot comme tout, mais bon, bref. Et c'est quelque chose que je ressors, et même mes collaborateurs, quand ils me disent, et si on remettait l'escaoutoun, voilà, donc, et je l'ai accommodé tantôt de truffes, tantôt de cèpes, voilà, c'est des choses comme ça, c'est des choses qui parlent de moi, il y a du vécu derrière tout ça, quoi.
Hélène Darroze, pour être sûre de bien comprendre la différence entre finalement cuisine technique et cuisine émotionnelle, qu'est-ce qui serait finalement quelque chose de plus technique, puisque vous disiez que les hommes, dans la cuisine masculine, même s'il y a des exceptions, il y a quelque chose de parfois plus démonstratif, c'est-à-dire qu'on est dans les pâtes, on est dans quelque chose de plus monumental. Comment ça s'incarne ?
Non, pas vraiment. Il y a aujourd'hui, vous savez, il y a plein de je dirais d'artifices enfin c'est pas des artifices, c'est des moyens qui permettent de montrer que voilà, on est un technicien, on maîtrise les choses et voilà, et c'est très bien hein, c'est très très bien, mais moi je dis chapeau, waouh comme ça, mais c'est différent de comment moi j'aborde la cuisine. C'est beaucoup moins instinctif, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus réfléchi ou cérébral, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut on peut parler de cérébral, oui, en effet.
Hélène Darroze, vous êtes une femme cuisinière, il y en avait pas beaucoup quand vous avez commencé. Vous êtes aussi une femme qui écrit, vous avez publié plusieurs livres, des livres de cuisine principalement. Il y a un livre qui s'appelle Les recettes de mes grands-mères et vous rendez hommage dans ce livre aux femmes qui vous ont inspiré. Et dans ce livre, qui est un grand format, un très beau livre, magnifiquement illustré, avec des plats qui, je dois dire, font très très envie. Il y a vos grands-mères qui vous ont transmis.
Il n'y a pas que vos grands-mères. Voilà, moi, c'est mes grands-mères au sens large. Il y a aussi d'autres personnes, d'autres femmes. En tous les cas, c'est vrai que ça parle de cuisine de femmes. Il y a par exemple ma grand-tante, une de mes grand-tantes, qui chaque fois qu'elle nous recevait, elle faisait ce qu'on appelle une salade de landaise, à une salade avec des haricots verts, avec du foie gras, du magret, des choses comme ça. Mais il y a aussi, il peut y avoir la maman d'une de mes amies, ou même la grand-mère d'une de mes amies. Il y a une dame qui a beaucoup compté dans ma vraiment formation de cuisinière, je pense, dans ma façon de me développer. C'était quand je suis arrivée au Louis XV, Alain Ducasse m'a confié, parce que vraiment, il a dit comme ça, je te la confie, prends-en soin, à un chef qui s'appelait Mario Murator. C'était un de ses chefs, qui était un très, très grand chef dans l'hôtel de Paris, qui est là, s'est décédé il y a quelques années, et qui a été très très important lui aussi dans ma formation de cuisinier.
À Monaco.
De cuisinière à Monaco. Et qui, il avait eu cette consigne de prendre soin de moi, il l'a fait pendant très très longtemps, jusqu'à son décès. Et donc je suis devenue sa seconde fille, hein, comme il disait. Et donc j'allais très très souvent dans sa famille en Ligurie, en Italie. Et il y avait sa mère, une vraie mama italienne qui s'appelait Lena Murator. Et j'ai beaucoup cuisiné avec Lena, de la cuisine italienne. Du coup, hein, elle m'a appris à faire les tagliatelles taillées à la main, les gnocchis, les tourtes de Pâques, enfin les tourtes vertes, plein de choses incroyables dans une spontanéité. Pour elle, c'est tout semblait si évident et c'est si facile. Et elle a eu beaucoup d'influence sur ma vision de la cuisine, ça c'est sûr. Sur cette générosité qu'on met et dans le faire et dans l'assiette, cette humilité qu'il faut avoir devant l'acte, devant ce qu'on fait, ce qu'on produit. C'était incroyable. Je retrouvais ce que j'avais vu ailleurs dans les Landes, quoi. C'était vraiment la même façon de se donner à travers la cuisine.
Parce que si vous êtes issu d'une lignée de cuisiniers hommes, les femmes aussi dans votre famille cuisinaient beaucoup.
J'insiste, hein, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère étaient cuisinières, hein, donc il n'y avait pas que des hommes. Sincèrement, dans mon enfance, j'ai autant vu, si ce n'est plus, ma grand-mère en cuisine que mon grand-père, hein, attention. Hein.
Votre grand-mère donc paternelle était un peu dans l'ombre de votre grand-père.
Oui, complètement.
Le roi Jean,
dans l'ombre pour le public, pour ceux qui connaissaient la famille et ça n'enlève rien aux qualités de mon grand-père, hein, qui était un grand cuisinier, un grand visionnaire, même, on va dire, hein, mais ma grand-mère était là et bien là, quoi.
Ouais. Je crois que vous aviez même une tante qui était un peu la reine des sauces dans votre famille.
Oui, ma tante qui nous a quittés là il y a quelques semaines, elle faisait des sauces. Mon père aussi était un grand saucier. Tous les deux, c'était vraiment les grands sauciers de la famille. Elle faisait des sauces incroyables, sauces. Mais bon, elle n'était pas du tout en cuisine, c'était de la cuisine familiale à la maison. C'est quand elle nous recevait, elle faisait des sauces incroyables, ouais.
Hélène Darroze, vous êtes une femme chef connue, reconnue, à tel point que vous avez inspiré, je crois, un personnage de dessin animé.
Ouais.
Faut qu'on en parle. Ratatouille, la cuisinière Colette. Ils sont venus chez vous, vous observez les studios Pixar.
Exactement.
Et vous avez donné votre accord et ça a été chouette.
Oui. Ils sont venus, ils ont pris contact avec nous à un moment donné. Moi, j'avoue que cette époque-là, c'était le deuxième dessin animé de Pixar, je crois. Il y avait eu Cars, et moi, je connais pas, c'est pas Pixar, Et voilà, et puis j'avais une assistante qui me disait, mais si, il faut dire oui. Moi, je vous dis, c'est moi, mon fils, il regarde Cars et c'est super, et c'est les prochains qui ils vont avoir une importance folle dans l'animé, voilà. Et puis bon, à la fin, je dis, bon, ok, allez, c'est rigolo, on y va. Et c'est vrai que j'ai été suivie par toute une équipe, hein, et des caméras pendant quelques temps. Et que on est ressorti. Je pense que Colette était déjà dessinée, mais Colette existait dans l'idée du film. Mais c'est vrai que, alors c'est marrant parce qu'elle ne me ressemble pas physiquement, pas du tout. Ça c'est clair. Et puis elle a quand même une dureté. Alors peut-être que je l'avais à l'époque, je sais pas, parce que c'était quand même. C'est facile. Hein, c'était il y a entre 18 et 20 ans. C'était le film. Il y avait au moins 20 ans. Parce que le film est sorti juste au moment où je suis devenue maman et Charlotte a 18 ans. Et donc peut-être que j'étais un peu plus dure ou un peu plus peut-être tendue. En contrôle de moi-même et un peu plus stressée que je ne le suis aujourd'hui peut-être.
Parce que le personnage de Colette, on le voit, elle essaie de faire sa place dans une cuisine
oui,
peuplée d'hommes.
Voilà.
On ne la prend pas au sérieux et elle doit vraiment élever la voix.
Ouais. Mais
ce qui n'a jamais été finalement vraiment
ce
votre
qui nage, enfin, je sais pas, ou peut-être que moi, vous savez, je suis une éternelle optimiste.
Vous avez une autorité
optimiste,
naturelle et que les choses se passent tranquillement.
Alors, une autorité naturelle, quand j'étais dans les cuisines de Ducasse, j'avais pas besoin d'avoir d'autorité. Moi, j'étais élève, hein. Donc,
Vous avez créé votre restaurant?
Oui, quand j'ai créé mon restaurant. Alors, il paraît quand même, quelques observateurs dans ma famille me disaient qu'au début, j'étais quand même un peu tendue et peut-être un peu, parfois un peu sèche. Mais ça m'est vite passé, ça.
Vous appelez Hélène Darroze. Vous voulez pas qu'on vous appelle chef en cuisine? Donc, vos collaborateurs, les brigades, les personnes avec qui vous cuisinez ou vous cuisinez, vous appellent Hélène. Et je crois même vous appellent parfois maman.
Ah ouais, alors maman, c'est dans mon dos, attention, hein. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps et oui, voilà, c'est, mais je pense que je suis très maternelle avec mes équipes, hein. Et souvent j'aime parler de famille et eux parlent aussi de famille quand on travaille avec moi. Oui, dans mon dos, j'ai appris qu'on m'appelait maman, mais sinon ils m'appellent Hélène, oui. Bien sûr, c'est mon prénom.
Il y a des femmes dans vos équipes? Il y a beaucoup de femmes?
Oh, il y en a pas assez. Alors, il y en a beaucoup au Maroc. Il y a beaucoup de femmes dans mes cuisines au Maroc. Ça, ouais. Parce que la cuisine, c'est très matriarcal là-bas. Et après, ici à Paris, je trouve que, alors, en pâtisserie, je crois que à part le boulanger, j'ai une équipe 100% féminine. Elles sont 6 ou 7 pâtissières ici à Marsan. Dans la cuisine, là, en ce moment, j'en ai qu'une et ça me rend un peu malheureuse. J'en avais deux, elles sont parties pour aller voir ailleurs parce que ça faisait un petit moment qu'elles étaient là. Donc là, il y en a plus qu'une qui est là, mais qui tient bien sa place, par contre.
Quel est son poste?
Un rôle. Alors, son poste, en ce moment, elle est à la sauce. Elle est chef de partie à la sauce. Voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de femmes en cuisine encore aujourd'hui, en 2025?
Qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de femmes? Bon, moi, je ne sais pas du tout pour moi une histoire de machisme ou de misogynie ou quoi que ce soit. À un moment donné, quand on est femme dans ce métier-là, il faut accepter d'être femme dans la vie, on va dire, un peu autrement. C'est-à-dire que on n'est pas là tous les soirs pour raconter l'histoire à ses enfants. On est maman différemment. On est amie différemment. On est épouse différemment. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de se dire que ça peut exister. Il faut avoir un peu d'audace, peut-être.
Vous militez, je crois, Hélène Darroze, avec d'autres contre les violences en cuisine, pour la bienveillance aussi en cuisine. Il y a eu une initiative comme ça à un moment donné, je crois.
Oui. Enfin, c'est pas que je milite, c'est que je dis, attendez, voilà quoi. Ça, je dis pas que ça n'a pas existé. Je dis pas qu'il y a peut-être des mouvements d'humeur, voilà. Maintenant, tout ce que j'entends, je dis pas que ça n'a pas existé. Attention,
que ça
existe
encore, parfois.
Peut-être que ça existe encore, mais enfin, il faut aussi parler de tout ce qui se fait de bien aujourd'hui dans les cuisines. C'est assez réducteur, quoi. C'est facile de montrer du doigt des cas isolés et du coup de sacrifier une profession. Voilà, je suis désolée, on est quand même à la base des marchands de bonheur. si on donne pas du bonheur à nos équipes, ils seront incapables d'en donner à nos clients. Donc c'est quand même ça notre métier. Mmh. Donc il faut pas réduire à des exemples, des cas isolés. Je veux dire, de la violence, il y en a partout, quoi. Moi j'ai des amis qui ont travaillé dans la finance. Ben la violence, elle était bien là, quoi. Hein, incroyable, quoi. Hein, donc voilà, il faut pas réduire notre métier à ça. C'est ce que je dis. Des abus, il y en a partout, dans tous les métiers. Pourquoi prendre le nôtre et le mettre comme ça sur l'autel du sacrifice et il faut aussi parler des gens bien. Moi, j'ai été assez choquée parce que je me souviens d'avoir vu sur les réseaux sociaux d'un magazine dont je citerai pas le nom, la journaliste qui a écrit un fameux brûloir, quoi, en fait, hein, sur ça. Et elle parlait face caméra et clac, 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 clac. D'accord, j'entends et je veux bien, mais qu'on mette en face quelqu'un qui a des réponses aussi et qui est un autre exemple que ce dont elle parle, quoi. On peut pas réduire à des excès. Et de la violence, il y en a partout.
Donc, s'il y a si peu de femmes en cuisine, c'est avant tout pour des raisons d'emploi du temps, peut-être.
Non, pas d'emploi du temps. C'est parce que c'est pas une question d'emploi du temps. C'est une question que, oui, vous savez, nous les femmes, on le dit souvent, et il y a aucun féminisme là-dedans. Mais oui, on a un travail. Oui, on est maman. Oui, on est épouse. Oui, voilà quoi. Hein, je veux dire, une fois de plus, sans aucun féminisme, voilà, un mec quand il sort du boulot, il peut aller prendre un pot avec ses potes. Une femme, quand elle a une famille, elle y va rarement, quoi. Donc, c'est peut-être voir aussi les choses différemment, les rôles différemment. Et on y arrive petit à petit. Ça, on fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais attention, hein, moi, je dis, c'est vraiment aussi la femme qui se met des barrières. Hein. Je dis pas qu'on les lui met ou quoi que ce soit. Moi, je dis aux femmes, essayez de voir que tout est possible, quoi. Essayez de voir qu'on peut être maman différemment. Moi, mes petites filles, tout le monde me dit, voilà, oh là, qu'est-ce qu'elles sont sympas, qu'est-ce qu'elles sont équilibrées, etc. Oui, mais et pourtant, j'étais pas là le soir. On donne l'amour autrement, on donne l'exemple autrement, on donne l'éducation autrement, et c'est tout aussi enrichissant.
Mmh. Hélène Darroze, vous êtes devenue mère, maman, assez tard, vers 40
ouais,
ans.
Oui, parce que j'avais...
Comment ça s'est passé pour vous, ce désir de maternité? Il était là, déjà?
Ah oui, moi j'ai toujours... Je pense que si j'avais pas été maman, ça aurait été l'échec de ma vie, quoi. Hein. Depuis toujours, j'ai voulu être maman, et depuis, alors peut-être pas toujours, mais depuis que je suis adolescente, j'avais cette espèce de sentiment de volonté d'adopter. Je me souviens même avoir dit une fois à maman, mais pourquoi vous adopteriez pas un enfant, quoi? Donc c'est quelque chose qui, je crois que c'est arrivé. Je pense à peu près situer, ouais, c'est ça. Moi je lis beaucoup, et à l'adolescence j'avais lu un livre de Dominique Lapierre sur Mère Teresa et tout ce qui se passait à Calcutta. Et
c'était de la joie, non?
Ouais, exactement. Ouais. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, je sais pas, que j'ai eu ce sentiment de vouloir adopter pour, je sais pas, je...
Peut-être parce voilà. Que dans votre famille de restaurateurs, il y avait quand même ce sens de la communauté, de la générosité.
Oui, il y avait de la communauté.
Où on recevait beaucoup des gens.
Peut-être, oui, il y a plein de choses après que je me suis dit, papa, il a été élevé, je l'ai dit dans un pas, qu'il l'appelait maman, et il a été élevé par une
femme qui n'était pas sa mère.
Voilà, qui était la mère de ses frères et sœurs, mais qui n'était pas de son frère et de sa sœur, mais qui n'était pas, voilà, et il avait un sentiment pour elle, c'était sa maman, et voilà. Donc peut-être que ça, inconsciemment aussi, c'est quelque
Vous
chose
avez
qui
compris
m'a marqué.
Il n'y avait pas que le lien du sang pour faire ça.
Ça, je l'ai, oui, voilà, c'est ça. Je l'ai réalisé bien après, même après que Charlotte soit arrivée, je crois. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a montré, mais oui, voilà, c'est ça. Pour moi, le lien du sang, en effet, n'est pas
le seul.
Voilà, en tous les cas,
possible.
Ce que j'ai vécu avec les deux adoptions de mes petites filles. Enfin, je dis petites, mais maintenant elles sont grandes. Mais c'était des bébés. Hein, elles avaient 3 mois quand elles sont arrivées, quand on les a mis dans mes bras. Moi, ce que j'ai vécu, je suis sûre que la maternité biologique est quelque chose d'immensément fort aussi. Hein, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai vécu à ce moment-là, et puis ce lien que je vis avec elles aujourd'hui, cette complicité, cet amour qu'il y a entre nous trois, c'est juste un truc de fou. C'est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie, et c'est juste incroyable, quoi.
Racontez-nous ce moment, ce processus d'adoption. Il a été compliqué. Ça a été une idée qui est venue comme ça. Vous avez.
Je vous
adopté...
dis, depuis l'âge de 16 ans, je oui. l'ai derrière la tête.
Mais
donc
le fait
voilà.
De pouvoir ensuite adopter, d'avoir la possibilité de.
Bah écoutez, ça n'a pas été si compliqué que ça. Je pense que je le voulais tellement. Je sais pas. Ça n'a pas été si compliqué que ça. À partir du moment où je me suis lancée dans le truc, il y a eu des moments un peu de découragement. Mais bon, il se trouvait que j'avais une amie qui avait adopté et qui m'a beaucoup soutenue. Tenu et ça s'est fait, voilà, pas alors pour la première, peut-être avec un peu plus de découverte et de. Après, avec Itri, bon, j'étais déjà passée par là, et puis moi j'avais continué à m'impliquer beaucoup dans les orphelinats que j'avais connus pour la première adoption. Donc tout ça, après, les deux fois, ça s'est quand même fait. Je vais pas dire que ça a été le parcours du combattant dont tout le D'accord. monde parle. J'en ai pas ce souvenir-là. Enfin, il y a eu des moments où il a fallu, voilà, se battre et, mais bon, je suis restée toujours très positive, très optimiste, très, je crois beaucoup à cette histoire de la pensée positive et tout, et j'étais dans cet état d'esprit, et voilà, quoi, je me souviens, dès que j'ai commencé les démarches et que j'ai vu que ça prenait, et que quand j'ai eu mon agrément, je me souviens, je suis allée acheter une petite robe de bébé, et pourtant, voilà, et rien n'était, je sais pas pourquoi une robe, hein, je pensais déjà que c'était une fille, mais bon, voilà. Et je me disais, tout ça va provoquer les choses, quoi, d'agir, de, voilà. Et ça s'est bien passé, voilà.
Votre fille aînée s'appelle Charlotte.
Comme ma grand-mère, oui.
Comme votre grand-mère.
Et je voulais que la deuxième s'appelle Louise, mais j'ai ma cousine Germaine qui me disait, non, n'appelle pas Louise, laisse-moi ce prénom pour moi, parce qu'elle voulait... Elle voulait rendre aussi, elle, hommage à notre grand-mère.
Ouais. Qu'est-ce que ça a changé en vous de devenir mère? Pas seulement en tant que femme restauratrice.
Je suis devenue plus responsable. Dans le travail, je suis vraiment devenue plus responsable. Autant avant, je faisais des choses...
Preniez plus de risques professionnellement?
Oui, plus de risques. Je faisais les choses des fois peut-être sans réfléchir et que voilà. Autant là, je me suis dit quand même, t'as charge d'âme, il faut faire attention, quoi. Et après, bah, après ça a changé beaucoup de choses. On change, enfin, je sais pas si on change ou quoi, mais bah, la vie, elle a changé en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'était, mais elle est devenue tellement plus belle.
Vous cuisinez avec vos filles?
Je cuisine pas forcément. C'est peut-être quelque chose que, ouais, peut-être que quelque chose que j'ai loupé. Enfin, peut-être que c'est parce qu'aussi quand je cuisine, je veux, même quand c'est que pour mes filles, je veux tellement que tout soit parfait comme je veux, etc. Que peut-être que je les ai pas assez impliquées dans le processus de cuisine. Donc, elles cuisinent de temps en temps avec moi, mais elles aiment bien cuisiner toutes seules. D'ailleurs, des fois le soir quand je pars travailler, qu'il y a rien, elles me disent maman, t'inquiète pas, on va se débrouiller, on va cuisiner. Mais c'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien fait dès le départ, ça.
Mais il y a des plats qu'elles vous réclament, qu'elles adorent, que vous faites.
Oui, il y a des plats que. Alors moi, j'en ai une, elle adore les pâtes, donc je cuisine énormément les pâtes pour elle. Hein, et ça, ce qui me dérange pas non plus, parce que bah avec cet héritage de l'Italie que j'ai eu avec Lena Muratore dont on parlait tout à l'heure, ça, voilà. Je me souviens que j'avais promis cet été que je lui apprenais à faire les raviolis, et on l'a pas fait. Le week-end dernier, par exemple, j'ai fait une blanquette parce que je savais que ma petite fille qui a eu un petit problème, un petit accident là, j'avais envie de lui faire plaisir et elle adore la blanquette, donc j'ai fait une blanquette. Oui, je cuisine en pensant à ce qu'elles aiment. Oui, bien sûr, oui. Mm-hmm.
Merci beaucoup, Hélène Darroze. On se retrouvera demain pour le dernier épisode de notre série À Voix Nue. On parlera de vos engagements, on parlera un peu de Top Chef aussi, parce que c'est important.
D'accord, à demain.
À demain, Hélène Darroze. C'était À Voix Nue avec Hélène Darroze, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Hervé Dubreuil. Chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgraal. Une série de Julien Teff disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.